Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Les titres de l'actualité de ce samedi 16 juillet, la rencontre controversée entre le président américain Joe Biden et le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman, 18 contrats signés sous l'ombre de l'affaire de l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi. La guerre en Ukraine et la localité de Vinnytsia qui compte ses morts, au moins 23 civils tués dans le bombardement de son centre-ville, la Russie assure avoir visé une cible militaire. La France s'apprête à commémorer un moment douloureux de son histoire, la rafle du Veldiv, c'était il y a 80 ans. 13 000 juifs ont été arrêtés, très peu reviendront des camps. Parmi eux, Arlette Testiller, alors âgée de 8 ans, nous l'entendrons dans ce journal. Et enfin, du sport, la 13e étape du Tour de France qui voit la victoire du Danois Mads Pedersen. Le Français, Romain Bardet, toujours 4e au classement général. Tous les détails dans le journal des sports après cette édition. Mais avant de développer ces titres, cette dernière information, on vient d'apprendre que le ministre australien Anthony Albanese a annoncé réinstaurer la prime Covid d'un montant de $750 et ce jusqu'à fin septembre. C'est une conséquence de la hausse des cas positifs de Covid. On l'écoute.
I said during the election campaign repeatedly that one of my themes was no one left behind. And indeed, I want to make sure that people aren't left behind, that vulnerable people are looked after. And that no one is faced with the unenviable choice of not being able to isolate properly without losing an income.
Et on le disait en titre, la visite plus que controversée de Joe Biden en Arabie Saoudite. L'objectif est de remettre à plat les relations entre les deux pays. Les États-Unis et le Royaume saoudien viennent donc de signer 18 accords stratégiques pour consolider leur coopération. Mais l'ombre de l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi imputé au prince héritier Mohammed bin Salman a plané sur cette rencontre. Martin Chabal.
C'est une grande table rectangulaire au milieu d'une salle du palais royal d'Al Salam qui a accueilli les Américains d'un côté et les Saoudiens d'un autre. Préoccupé par le prix du pétrole, Joe Biden a obtenu des Saoudiens une augmentation de leur production en or noir. Ils n'ont pas pour autant précisé le volume que cela représenterait. Les Américains en ont profité pour assurer leurs intérêts économiques dans la région. Ils ont trouvé un accord sur la 5G, privant ainsi la Chine d'un marché important. Les États-Unis investiront aussi dans les énergies solaires et nucléaires afin que le royaume saoudien atteigne ses objectifs en matière de changement climatique. Mais les relations entre le prince héritier d'Arabie Saoudite et le président des États-Unis ont capté l'attention lors de la prise de parole de ce dernier. Joe Biden a affirmé avoir réprimandé Mohammed bin Salman qu'il considère comme responsable sur le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi. Le Saoudien aurait nié toute responsabilité. Cette décision de rencontrer le prince héritier ne passe toujours pas pour certains militants américains. La femme du défunt journaliste a fustigé sur Twitter le président des États-Unis qui aurait, je cite, « le sang des prochaines victimes de Mohammed bin Salman sur ses mains ».
Et justement, Joe Biden a répondu à la question d'un journaliste qui lui demandait quelle était sa réaction face à ce tweet lui disant qu'il avait le sang des victimes sur les mains. On écoute Joe Biden.
We just heard from Jamal Khashoggi's wife who said, after this visit, the blood of MBS's next victim is on your hands. What do you say to Mrs. Khashoggi?
I'm sorry she feels that way. I was straightforward back then. I was straightforward today. I came here to meet with the GCC and nine nations to deal with the security and the needs of the free world, and particularly the United States, and not leave a vacuum here.
Cette rencontre marque un revirement de taille dans la politique diplomatique des États-Unis. Joe Biden avait annoncé vouloir faire de l'Arabie Saoudite un État paria après l'assassinat du journaliste. C'est donc une conséquence de l'inflation du pétrole depuis le début de la guerre en Ukraine. C'est en tout cas ce que pense le directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen, Hasni Abidi.
La guerre en Ukraine a été... À mon avis, le cadeau inespéré aussi pour Mohammed bin Salman. Il y avait plusieurs conseillers au sein de la Maison Blanche proches de du bureau de conseil pour la sécurité qui ont réussi à convaincre, notamment ceux qui s'occupent du pétrole, qui s'occupent de l'énergie, qui s'occupent du Moyen-Orient et du Golfe, qui ont convaincu le président Biden d'opérer ce revirement pour dire qu'en fait, aujourd'hui, tout plaide en faveur plutôt d'une normalisation des relations avec l'Arabie Saoudite. Tout passe par Riyad, à la fois les relations avec les pays du Golfe, la question de pétrole qui est à mon avis plus importante, elle est déterminante. Elle est déterminante à la fois pour les élections mi-mandat. Si Biden perd mi-mandat, ça veut dire que 2024, c'est non seulement c'est perdu pour lui, mais c'est perdu pour les démocrates. Il faut absolument absorber l'inflation. L'Arabie Saoudite est un grand secours en matière économique pour les États-Unis surtout. C'est la seule puissance en mesure aujourd'hui d'ouvrir son robinet et de stabiliser le marché pétrolier.
La colère en Ukraine après le bombardement de Vinnytsia, au moins 23 civils ont été tués après des frappes de missiles contre le centre de cette ville, pourtant éloignée de la ligne de front. Le ministre russe de la Défense affirme avoir visé une réunion du commandement ukrainien avec des fournisseurs d'armes dans une maison des officiers. À Kiev, la correspondance de Stéphane Suan, RFI.
Est-ce que les officiers russes ont vu juste sur une carte Google l'inscription « Maison des officiers » et décidé d'y lancer un missile de croisière ? Voilà la question absurde que se posent de nombreux Ukrainiens après la frappe dramatique qui a détruit ce bâtiment du centre-ville de Vinnytsia et touché une cinquantaine d'immeubles alentour. Le ministère de la Défense russe affirme qu'une partie du commandement des forces aériennes de Kiev a été éliminée dans la frappe, sauf qu'aucun élément sur place ne corrobore cette version. En effet, la maison des officiers a été reconvertie depuis de nombreuses années en centre culturel et auditoire de concert, où ce week-end devait se produire la chanteuse Roxolana, candidate malheureuse au dernier concours Eurovision de la chanson. D'ailleurs, un de ses techniciens, arrivé en avance sur le site, a été tué dans le bombardement. À d'autres niveaux, le bâtiment abritait des bureaux, des petits commerces, des échoppes de services, comme c'est souvent le cas dans ces vieux immeubles administratifs de l'époque soviétique. Enfin, un centre médical spécialisé dans les soins périnataux et dans la petite enfance était installé au pied du bâtiment, lui-même jouxtant un des axes les plus passants de Vinnytsia. Il s'agit donc, ni plus ni moins, du plus grave bombardement sur une zone civile loin des lignes de front depuis le début de la guerre.
Direction le Royaume-Uni, où le pays se cherche un nouveau Premier ministre. Les 5 candidats toujours en lice se sont affrontés lors d'un débat télévisé. La ministre des Affaires étrangères, Liz Truss, a vanté son expérience internationale et s'est engagée à adopter une ligne dure avec l'Union européenne sur tout ce qui concerne les conflits commerciaux post-Brexit. De son côté, l'ex-ministre des Finances, Rishi Sunak, est considéré comme le grand favori. Mais lors du débat, le député Tom Tugendhat lui a reproché son implication dans le scandale du Partygate, forçant Rishi Sunak à présenter ses excuses.
Of course there's a problem with people being asked to obey rules that those who make them don't obey. Of course that's a problem.
He's talking about you, Rishi Sunak. I mean, explain why it's okay to have a prime minister who has been found to break the COVID laws.
Yeah, it was a mistake and I apologized for it at the time and I apologize for it again. I wish it had never happened.
Au Sri Lanka, le pouvoir a changé de main. Le Premier ministre Ranil Wickremesinghe a été investi président par intérim. Il a prêté serment peu après la démission officielle du chef d'État déchu, Gotabaya Rajapakse. Le Parlement sri-lankais doit se réunir la semaine prochaine pour élire le nouveau président de cette île au large de l'Inde. Mais pour les habitants qui protestent pour ce changement de régime depuis des mois, le soulagement n'est pas encore au rendez-vous. La crise économique fait rage, le pétrole se fait rare et les denrées alimentaires sont de plus en plus chères. On écoute ce manifestant.
Normal food prices got high and after the May, the fuel prices went up. With that fuel prices increase of fuel price, then all the transportation and the transportation prices came to very high.
On prend la direction de la France pour marquer l'anniversaire d'une date parmi les plus sombres de l'histoire. C'était il y a 80 ans, la rafle du Vel'd'Hiv. Les 16 et 17 juillet 1942, sur ordre du gouvernement de Vichy, les policiers français ont arrêté près de 13 000 juifs. Juste à Paris, 8 000 d'entre eux, principalement des femmes et des enfants, seront enfermés dans le vélodrome d'hiver avant d'être déportés dans des camps. De cette rafle, il n'y aura qu'une centaine de survivants. Parmi eux, Arlette Testiller. À l'époque, elle s'appelait Arlette Mann, elle avait 8 ans. Depuis, elle raconte inlassablement son histoire dans les écoles. Nathanaël Vitran l'a rencontrée pour Radio France Internationale.
Dans la nuit du 16 au 17 juillet, j'ai 8 ans et demi. Et il est 6h du matin, ma sœur dort encore, maman se lève, frappe à la porte, des coups violents. C'est la police. Donc elle ouvre, et là je vois deux policiers avec une liste à la main. On nous a embarqués comme des voleuses. Les autobus nous ont dirigés vers le vélodrome d'Yverdon, où je ne connaissais pas. Et on est arrivé devant ce bâtiment en fer, que des policiers. J'ai jamais vu d'Allemands, vous savez, monsieur, jamais. Je n'ai vu que des policiers. On nous a déversés dans ce vélodrome d'hiver. C'était dantesque. Les gens pleuraient, les gens criaient, les enfants se sauvaient. Il y avait des grabataires, des estropiés, des gens avec des béquilles, des femmes enceintes. Puis jour et nuit, les autobus déversaient les gens.
Pourquoi est-ce que c'est si important de la répéter, cette histoire ?
D'abord, je la raconte parce que les enseignants le demandent. Mais si je le fais surtout, c'est pas pour moi, c'est pour ceux qui ne sont pas revenus. Parce que si on les oublie, ils vont mourir une deuxième fois.
La rafle du Veldiv, c'est aussi le thème de la rétrospective du jour signée Léo Roussel, à écouter un petit peu plus tard dans l'émission. Et sans transition aucune, un point sur la météo de cet après-midi. Il y a des averses à Perth, 19 degrés, 16 degrés à Adélaïde, 13 à Melbourne, 13 degrés également à Hobart. C'est nuageux à Canberra, 10 degrés, nuageux également à Sydney, 16 degrés, du soleil à Brisbane, 21 degrés, des averses à Cairns, 26 degrés et enfin grand soleil à Darwin, il fait 28 degrés. Le rappel des titres, la prime Covid réinstaurée jusqu'à fin septembre pour un montant de $750. Le président Joe Biden en visite en Arabie Saoudite pour aplatir les relations entre les États-Unis et le Royaume. La guerre en Ukraine et au moins 23 civils tués dans le bombardement du centre-ville de Vinnytsia, localité pourtant éloignée de la ligne du front. Et la France qui s'apprête à commémorer l'une des dates les plus sombres de son histoire, la rafle du Veldiv, c'était il y a 80 ans.
Vous aimez le programme en français ? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.